Et on va commencer tout de suite par ce que pense monsieur et madame tout le monde de la réinsertion socio-professionnelle que nous avons croisé à Bruxelles, Tanguy et moi, en faisant un micro-trottoir à la place Sainte-Catherine. Et donc, on écoute ça tout de suite.
Le son qui vient de là.
Petit problème technique, ça va arriver. On fait un décompte, 20, 19... 18, 17.
La plupart de... Vous, c'est quoi la réinsertion socio-professionnelle?
C'est permettre à certaines personnes qui sont en marge d'activités professionnelles de pouvoir retrouver un emploi et une nouvelle à travers une nouvelle formation pour accéder à un emploi, quoi.
Ok. Et pour vous, est-ce qu'un fou peut travailler et dans quelle mesure?
Il y a des traitements, enfin il faut qu'ils soient suivis. La plupart des personnes effectivement qui sont dans la rue sans abri, on sait que la plupart des gens qui sont dans la rue ont des problèmes psychologiques et psychiatriques. Après il faut des traitements, il faut des suivis, et ça malheureusement je ne sais pas si l'ensemble des États européens notamment travaillent sur ces questions-là, de sorte que ces personnes-là puissent être réinsérées professionnellement.
Ok.
Et est-ce que les fous peuvent travailler dans tous les types de travail? Est-ce que les fous peuvent travailler dans tous les domaines?
Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si on peut les mettre dans certains postes de sécurité ou à risque. J'en sais rien. Il faut voir au cas par cas.
Okay. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Donc voilà, la première question, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est la réinsertion socio-professionnelle?
Ouais, tu sais répondre, moi je ne sais pas, moi nous sommes passionnés, alors...
On a d'autres questions, si vous voulez. On a, est-ce qu'un fou peut travailler?
Est-ce qu'un...
Oui. Pourquoi? Oui.
Un fou peut travailler?
Non. Non. Non.
Pourquoi?
Parce qu'il n'est pas apte à travailler, je crois.
Peut-être. Dans quel sens?
Peut-être du côté du cerveau, de ses gestes qui peut faire malheur. Je vois mal un fou travailler dans une boucherie, quoi.
Et la deuxième question, c'est justement ça. Est-ce qu'un fou peut travailler dans tous les domaines?
Non.
Non.
Non, ça pas.
C'est triste pour lui, mais non.
Merci.
Merci.
Bonjour.
Nous travaillons pour une radio qui est Radio Panique, une radio libre, et en fait nous aimerions bien vous poser 2-3 questions vite fait si vous aviez le temps pour ça.
Alors vous vous adressez à madame.
Non, merci.
Bon, c'est
bonne journée, messieurs.
Alors, vous aussi.
Merci.
Alors c'est quoi la réinsertion socio-professionnelle selon vous?
C'est réinsérer des gens dans le milieu la vie de tous les jours, au niveau du boulot et puis au niveau de leur lien avec le. Au niveau du lien social avec la société.
Est-ce qu'un fou peut travailler?
Oui.
Est-ce qu'il peut travailler dans tous les domaines?
Oui.
Pourquoi?
Mais parce que, bon, alors déjà fou, ça veut rien dire. Et puis. En plus, je pense que quelqu'un qui a un trouble mental, en général, s'il est soigné et suivi, qu'il est stabilisé, il n'y a aucune raison que son trouble ne l'empêche de travailler. Évidemment, tout ça doit être encadré. Mais sinon, je vois pas de soucis à ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Nous voilà de retour sur Radio Panique, Silence Radio 105.4, et nous voulions demander à nos invités s'ils avaient envie de rebondir sur ce qu'ils avaient entendu juste maintenant.
Ben, peut-être par rapport à la folie, effectivement, c'est quand même une histoire assez... particulière avec cette histoire de boucherie. Moi personnellement je trouve qu'il faut être fou pour travailler dans une boucherie, donc on peut bien voir que la folie c'est quelque chose d'assez relatif. Et puis je trouve aussi que il y a un aspect qui a été évoqué à un moment donné dans un interview en micro-trottoir, qui était effectivement le fait que s'agissait vraiment d'un aspect au cas par cas. Et effectivement, je pense que cette question-là relève vraiment du cas par cas.
C'est vrai que la folie en tant que telle, qu'est-ce qu'on appelle la folie si ce n'est la maladie mentale? Et lorsqu'on regarde un petit peu autour de soi, des gens qui travaillent et qui ont des problèmes psychiques, qui sont proches de la maladie mentale soignée, il y en a nombreux. Avant d'être en burn-out, on est d'abord en souffrance psychique. Et à partir de là, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, la limite est des fois difficile à marquer.
Est-ce que vous pourriez, parce qu'on parle de réinsertion socio-professionnelle, mais on parle aussi de réhabilitation. Est-ce qu'il y a une différence, ou est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Oui, il y a une différence. Oui.
Ah oui.
Oui, quand même. La réhabilitation, c'est retrouver des habiletés sociales. Donc c'est tout à fait différent de l'insertion professionnelle. La profession, le travail peut faire partie de la réhabilitation sociale, mais c'est qu'un élément. Avoir un logement, avoir des relations, avoir une activité sociale, une utilité sociale, c'est quelque chose qui n'est pas réservé au travail.
Mais quand vous parlez de réinsertion professionnelle, c'est toujours lié au travail, ou bien qu'entendez-vous par travail? Est-ce que c'est une notion plus large que le travail tel qu'on l'entend habituellement?
Alors le travail, c'est une activité rémunérée, d'accord? Ça, on se limite à ça. C'est le travail, c'est l'activité rémunérée. Après, ce sont des activités. Hein? Donc il y a toute une frange de la population également qui vit sans travailler. Hein? Est-ce qu'un pensionné, est-ce qu'un retraité, est-ce qu'il travaille, ou pourtant il a un revenu quand même? Hein? Donc voilà, on est dans toutes ces difficultés à définir. Pourquoi on appelle les choses et les situations?
Et un travail qui est rémunéré par l'entreprise, par l'employeur, ou bien ça peut être aussi un travail qui est rémunéré par une association, par un fonds d'argent qui reverse? Ou est-ce qu'il y aurait un tiers qui pourrait intervenir dans le travail?
Il y a bien assez d'ASBL qui emploient des personnes et qui les rémunèrent. Mais après, l'ASBL, elle obtient des subsides, ou elle n'en obtient pas, mais qu'importe. À ce niveau-là, il y a quelque chose qui peut être de la solidarité nationale, ou alors un revenu de production.
Oui, ma question, c'est plus est-ce qu'il y a en Belgique des aides prévues pour les personnes financières, pour les personnes en maladie qui vont travailler, quoi? Est-ce que ça se fait souvent, ou alors est-ce que c'est l'employeur qui paye directement, en fait? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Moi, c'est ma question.
Alors, il y a des dispositifs qui existent. Okay. Et ce qu'on appelle des incitations à l'embauche, hein, par exemple. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on part, j'allais dire, on part de loin. Parce que, essentiellement, jusqu'à présent, ces aides à l'embauche concernent des gens qui ont une reconnaissance handicap. Et le handicap et la maladie mentale, moi je fais quand même une petite différence, et de bon nombre de nos patients ne souhaitent pas être reconnus, affichés comme handicapés, parce que pour eux, au niveau social, c'est une représentation qui est stigmatisante. Mmh. et qu'ils refusent.
Mmh. Et monsieur Lagarde, donc Cédric Lagarde,
oui,
c'est voilà. au centre de jour Imago, est-ce que vous avez des activités comme ça de réinsertion professionnelle, ou est-ce que vous travaillez sur et vont, enfin, je veux dire, sur la volonté, sur le souhait des gens de retravailler ou de travailler.
Alors, effectivement, la question de la réinsertion professionnelle peut être un élément qu'on va travailler. C'est, ça peut être un des objectifs thérapeutiques qu'on va poursuivre avec la personne. Comme je disais, c'est vraiment à chaque fois du cas par cas. Donc tout dépend évidemment du projet. Donc il faut savoir que les traitements qu'on met en place, on les met en place dans un secteur particulier qui est effectivement le secteur de la réhabilitation psychosociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en place des programmes thérapeutiques. Alors à Imago, voilà, le programme se décline principalement sur la sociothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de la vie communautaire, l'utilisation de l'institution pour recréer des situations de l'ordre du social qui vont permettre, nous, on y croit, de pouvoir retravailler certains éléments. Alors après, on a effectivement des ateliers qui sont un petit peu plus spécifiques. Je pense à un atelier qu'on a appelé l'espace social, qui là est un atelier qui, sur base de mise en valeur et surtout de collaboration au niveau des compétences de chacun, on va monter des projets. Alors ça peut être, on a monté un projet, un guide alimentaire, on a fait une après-midi d'études autour de la vie sexuelle et des institutions psychiatriques. Enfin voilà, donc on monte des projets. Donc c'est à travers cette activité-là, effectivement, que les personnes vont pouvoir s'essayer à nouveau, s'expérimenter dans un cadre évidemment sécure, entouré, pour pouvoir effectivement à un moment donné reprendre le chemin du travail pour ceux qui le souhaitent. Voilà, on collabore aussi avec d'autres acteurs, par exemple le Clubhouse Bruxelles ou bien la plateforme de concertation bruxelloise avec le groupe Interface, qui là aussi a tout un volet de sensibilisation auprès du grand public mais aussi auprès des employeurs.
Le Clubhouse, vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est?
Oui, alors le Clubhouse, c'est une initiative assez récente qui vient d'ouvrir, qui est un lieu de travail en soi, autogéré par des membres. Ce lieu a pour vocation donc d'offrir, alors comme je le disais, un lieu de travail, mais aussi de développer la possibilité de se réinsérer vers le travail avec là des aménagements au niveau du travail. Alors ça peut être une manière de se tester différemment dans un travail, par exemple dans le modèle type des Clubhouse, puisque c'est un modèle des standards internationaux à respecter. Eh bien, ils ont tout un programme de transition vers l'emploi, où ils proposent par exemple à des personnes d'occuper un poste, mais au lieu que ce soit une personne qui occupe ce poste-là, et puis avoir deux, trois personnes formées à ce poste, de façon à ce que quand les gens sont pas bien, ou n'ont pas pris leurs médicaments, voilà, une autre personne puisse prendre le relais, ce qui assure à l'employeur évidemment d'avoir toujours quelqu'un pour occuper le poste.
Quelles sont les difficultés que les personnes rencontrent quand elles se remettent sur le marché de l'emploi ou quand elles désirent s'y remettre? Donc, quels sont les écueils à éviter? Et puis, peut-être François Bernand, le CRIT, c'est le centre de réadaptation.
Centre de réadaptation psychosociale.
Sociale par l'insertion
et d'intégration au travail.
Donc vous avez plus une fonction de réinsertion par le travail.
Alors c'est pas l'activité principale, pas plus que tout à l'heure quand on définissait la réhabilitation sociale. Le travail, effectivement, c'est une orientation que l'on a, mais également c'est tout un travail, ce que l'on appelle la sociothérapie, où on utilise, on a à peu près une vingtaine d'ateliers sur la semaine, qui se déroulent sur la semaine, où on utilise un petit peu le maximum de ce qui existe comme contexte social pour pouvoir travailler avec les personnes qui sont psychotiques. Je pense qu'il faut aussi pour nos auditeurs aussi bien préciser un petit peu une des grosses difficultés de la personne qui souffre de psychose, c'est la relation à l'autre. C'est d'abord la relation à l'autre qui amène l'isolement, et une fois que l'isolement est installé, on a tout un travail, nous, de pouvoir remobiliser la personne sur ses compétences, sur ce qu'il sait faire, ses capacités. Et tous ces ateliers sont tout un travail qui est long, mais qui est utile pour le patient et qui lui permet de pouvoir se réhabiliter, retrouver ses habiletés, comme je disais tout à l'heure, sociales, et avoir une relation à l'autre et un rôle social. Ouais. Et la recherche de travail peut faire partie de ce rôle social.
Pour compléter, peut-être juste, je voulais préciser qu'effectivement, les programmes de réhabilitation psychosociale sont limités dans le temps. Et donc, c'est ce qui nous invite aussi à penser le après, et donc à mettre en place des projets. Et donc, c'est vrai que dans ces projets, le travail est un des projets, mais il y en a d'autres, comme effectivement la citoyenneté, ou bien une vie journalière autonome. Enfin, voilà, il y a différents autres aspects du travail.
Et est-ce que en parallèle vous agissez d'une certaine manière sur le travail aussi? Je dis ça dans le sens où parfois des personnes qui en viennent à passer au CRI, toucher Imago, c'est souvent aussi parce que le travail a fait mal. Et donc c'est réinsérer aussi la personne dans quelque chose qui a pu lui faire souffrance. Et donc du coup, est-ce que à travers ce que vous faites, il y a aussi une mobilisation par rapport à différents acteurs du travail?
Par rapport aux acteurs du travail en tant que tel, c'est vrai que nous, on a une orientation de d'abord se concentrer sur le patient. Ouais. C'est d'abord travailler avec le patient pour que le patient y retrouve du bien-être, qu'il retrouve justement ce rôle social, ce bien-être, cette santé mentale, psychique également. On fait appel aussi parfois aux hôpitaux. Les gens ont des traitements aussi, hein. Donc il y a tout ça. Mais notre objectif, c'est d'abord de leur permettre, par exemple, de retourner le moins possible à l'hôpital. Les séjours dans les hôpitaux, pour nous, doivent être les plus courts possibles. Et lorsqu'il y a situation de crise, on essaye autant que possible de pouvoir les contenir avec le patient sur nos activités.
Ouais. Et en cas de crise dans un travail, est-ce qu'il y a une adaptabilité par les entreprises, ou alors vous avec les entreprises, est-ce que vous concevez quelque chose pour dire à ce moment-ci c'est pas possible, mais dans un mois ce sera possible à nouveau, quoi?
Alors, dans nos patients, il y en a très peu qui ont une activité de travail actuellement. Okay. Hein, d'accord. Presque tous souhaitent un jour retravailler.
Okay.
Mais ça fait partie de leurs objectifs personnels. Après, c'est tout un cheminement qui se fait avec eux pour voir dans quelle mesure, quelles sont les compétences. Lorsqu'il y a le travail, comme tout à l'heure on disait, qui a fait mal, qui a rendu malade, nous on soigne d'abord la personne. Mais soigner la société et les conditions de travail qui rendent malade, non, nous on est dans la santé mentale, on n'est pas au gouvernement ni à défendre des cadences de travail qui sont insupportables.
Mais justement, est-ce que pour les personnes en souffrance psychique, il y a des aménagements possibles qu'on pourrait envisager ou qui sont déjà envisagés pour ces personnes?
Oui, il y a tout un arsenal de dispositions, mais tout dépend du statut de la personne. Hein? Par exemple, si la personne est sous mutuelle, a une prise en charge mutuelle, il y a ce qu'on appelle l'article 100, paragraphe 1, qui permet d'avoir un travail à temps partiel. Et je dis bien à temps partiel, je ne dis pas à mi-temps. Ça peut être 8 heures par semaine. Ouais. ça peut être aussi 20 heures par semaine, ça peut être 25 heures. Mais on entend bien par une disposition telle que celle-là et qui, en plus, depuis quelque temps, dans laquelle il est permis aux patients de pouvoir, non pas faire marche arrière, mais s'il y a trop de difficultés, pouvoir être à nouveau sous le financement mutuel avec les mêmes revenus qu'auparavant. Alors qu'il y a quelque temps, c'était selon les revenus du temps partiel. Donc personne ne choisissait cette solution, bien entendu. Ouais. Donc là, il y a des choses qui avancent petit à petit. C'est vrai que c'est long, c'est difficile. Il faut beaucoup discuter. Il y a quelques années, il y a eu une convention qui a été signée donc entre l'INAMI, il y a le Actiris, les mutuelles, il y a Bruxelles Formation, il y a le VDAP, il y a etc. Il y a le Phare qui ont fait toute une convention avec un plan de pouvoir essayer de réhabiliter les gens dans le travail, mais à condition qu'ils soient volontaires, bien entendu.
Ouais. Et on a vu l'apparition des job coachs.
Alors le job coach, effectivement, dans le cadre de la réforme de la psychiatrie, on a eu au CRIT la charge d'un job coach. Qui permettait de prendre du temps avec les patients pour pouvoir avoir tout ce cheminement de recherche d'emploi, puis éventuellement, s'ils ont un emploi, d'accompagnement dans le parcours d'emploi, pendant l'emploi.
Et est-ce que ça marche? Toutes ces initiatives et toutes ces nouvelles choses, est-ce que ça fonctionne selon vous?
Ça marche avec les limites, bien entendu, de chaque personne. C'est tout du cas individuel. Dans notre structure, on cherche pas à faire du chiffre. Mmh, mmh. On cherche à faire de la qualité. La personne qui vient voir le job coach, elle vient d'abord essayer de dire, ben voilà, moi, c'est où c'est que j'en suis, voilà pourquoi je n'ai plus de boulot, mmh. Je voudrais bien en retrouver. Et le premier travail du job coach, ça sera de refaire gagner de la confiance en soi, de prendre conscience de toutes les compétences qui restent, et de ces compétences-là, qu'est-ce qu'on peut en faire.
C'est ça.
Donc à partir de là, on commence à retravailler sur de la recherche d'emploi.
Et une fois que les personnes reprennent le travail, est-ce qu'à ce moment-là, ça se passe positivement de manière générale? Je me demande quand même, enfin, je vous demande pas des statistiques, mais ça m'intéresse quoi de savoir, si de manière générale les gens se sentent bien dans leur travail, si ça fonctionne bien.
J'aurais pas assez de recul pour pouvoir faire une réponse très pertinente là-dessus, parce que les job coach, je pense, ça fait 2 ans qu'ils sont mis en place. Même au niveau de l'avenir également, ils sont liés avec les projets 107 de la réforme de la psychiatrie. Les projets 107 expérimentaux vont s'arrêter en fin de l'année 2018. Il doit y avoir un nouveau projet pour tout Bruxelles. Comment ces job coach, il y en a 3 seulement sur 3 et depuis un mois, hein, il y en a 3. Avant il y en avait 2. Il y en a 3 sur le territoire de Bruxelles. Mm-hmm. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'il y ait vraiment un accompagnement.
François Bernon, 3 job coach sur le territoire de Bruxelles, c'est très peu et il y a beaucoup de demandes, je pense. Donc comment fait une personne qui a vraiment envie de retravailler, de voir un job coach, le temps qu'elle... Il y a des listes d'attente, comment ça se passe?
Oui, forcément, il y a des listes d'attente parce que pour pouvoir prendre du temps avec les personnes et puis aller faire du travail en profondeur, le job coach, il va accompagner à peu près une vingtaine de personnes. Donc, on n'en est pas à l'accompagnement dans les missions locales où je suis bien tranquille. Les personnes qui travaillent, qui accueillent, c'est pas 20 personnes qu'ils ont en charge. Donc là, on prend du temps. Et par contre, il y a énormément de demandes et on est obligé de faire une liste d'attente. Ouais. Et la liste d'attente est des fois un peu longue et on travaille justement on retravaille ce problème-là pour voir comment on peut, d'une façon collective, accompagner aussi les gens qui sont sur la liste d'attente.
Vous parliez de cas par cas tout à l'heure et en fait, l'INAMI a organisé il y a quelques mois une table ronde avec différents acteurs. Et donc, l'objectif de ces deux rencontres était de voir les leviers et les freins à la réinsertion professionnelle de personnes ayant un trouble psychique. Et dans ce rapport qui n'est pas encore finalisé, donc c'est provisoire ce que... il parle de problèmes quand même structurels, qui a des événements... Comme par exemple, créer des outils pour avoir un réseau autour de la personne... avoir vraiment des acteurs importants dans ce réseau-là. Il parle aussi de créer des formations et de mettre en place des colloques et des conférences pour changer les mentalités, diffuser de l'information. Donc, est-ce que vous voyez d'autres éléments structurels, en fait, qui pourraient aider à la réinsertion socio-professionnelle ?
Par rapport à la réinsertion socio-professionnelle à ce niveau-là, encore ce matin, on était à la plateforme de santé mentale en train de travailler justement pour lister un petit peu tout ce qui existe pour favoriser l'insertion socio-professionnelle. Elle est énorme, cette liste. Donc, nous aussi, on va travailler à pouvoir, dans le but de faire une information d'abord aux usagers, hein, d'abord aux personnes qui ont besoin, et également aux employeurs, également à tous les professionnels aussi qui travaillent dans le secteur, pour pouvoir dire, effectivement, il y a des outils qui existent, mais parfois, ils s'entrechoquent, les outils. Mmh. Ouais. Quelques petits exemples. Une personne prend un emploi et puis qu'elle est en colocation, tout de suite, il y aura tout de suite des conséquences, éventuellement pour les colocataires. Hein? Voilà, c'est par exemple, c'est tout des choses comme ça qui. Et on n'est pas sûr du résultat. Mmh. Hein? Donc, c'est faire un peu un
intérêt. Quel type de conséquences par rapport au colocataire ?
Si un colocataire est, par exemple, a un revenu de l'ONEM, et il risque d'avoir une diminution de son revenu de l'ONEM parce que c'est les revenus de la colocation qui sont pris en compte.
C'est ça.
D'accord.
Mais ça, c'est une mesure injuste. Je me révolte mais.
Oui, voilà, mais c'est toutes ces conséquences quand on travaille sur ces sujets-là qu'il faut arriver à pouvoir maîtriser. Mmh. Et c'est toute une difficulté et la tâche est énorme, là.
Voilà, ben je vous propose maintenant d'écouter un morceau de musique de Pink Martini et qui s'intitule « Je ne veux pas travailler ».
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je
Sur Silence Radio, donc c'est sur 105.4 Radio Panique, et nous allons nous écouter des folles recettes de Miss Vertigo.
La réinsertion, qu'elle soit par le travail ou autre chose, c'est un terme qui m'a toujours filé des boutons. Vous vous êtes déjà interrogé sur l'origine du mot réinsertion, non ? Eh bien le voilà. Préfixe ré, retour à l'état originel. Insertion, dérivé d'intégrer, remettre en état. En gros, donc, le principe de la réinsertion, c'est que vous avez un élément A qui est contenu dans un élément B. Et un jour, le A est trop à l'étroit dans l'élément B, le B ne bougeant pas d'un iota, le A, dans un élan de survie, se retrouve expulsé du B. Mais après, il y a le quatuor formé par le F, le R, le C et le E qui disent... C'est déconné. Le A n'est plus dans le B. Remettons-le en état jusqu'à ce qu'il rentre à nouveau dans le B. Oui, j'avoue, c'est une équation qui peut paraître compliquée de prime abord. Histoire que vous ne perdiez pas votre alphabet, je vous propose un petit intermède avec une folle recette signée Miss Vertigo. Prenez un petit marron. Coupez-le en deux et débarrassez-le de son cœur. Placez-le dans un plat, partie évidée vers le haut. Arrosez-les d'un filet d'huile d'olive et mettez-les au four à 180 degrés. Pendant ce temps, faites revenir de l'huile d'olive et de l'ail dans une poêle. Ajoutez-y une pointe de clou de girofle, une de cannelle et un filet de sauce soja. Ensuite, faites-y sauter des girolles, une poignée de noisettes concassées et des marrons coupés en petits morceaux. Une fois cuit, mixez le tout et répartissez le mélange dans les demi-petits marrons attendris. Toute cette poésie culinaire pour en revenir à notre équation. Si on reprend notre quatuor formé du F, du R, du C et du E qui s'escriment à modeler le A pour qu'il rentre dans le B, vous aurez bien compris que c'est une farce dont il s'agit. Tantôt préparation culinaire, elle est aussi une pièce de théâtre courte et populaire dont le but est de faire rire. Elle est destinée à farcir d'intermèdes comiques les épisodes des mystères médiévaux. Une précision encore sur la farce. L'intrigue simpliste met toujours en scène une personne qu'un farceur rend cocu. Les personnages ne sont pas individualisés, mais réduits à quelques traits génériques et caricaturaux. Son nom, c'est soit la femme, l'homme, le malade. Voyez des liens là où vous voulez en voir, mesdames et messieurs qui pensez et légiférez la réinsertion par le travail en santé mentale. Mais n'oubliez pas que pour que la recette de petits marrons farcis aux girolles et marrons soit digeste, l'élément indispensable est que la chair du petit marron s'attendrisse. N'est-ce pas la preuve par A plus B que c'est plutôt le travail qui doit être modelé ? Et voilà.
Merci.
Merci Aline. Merci.
On va reprendre la discussion. Moi, j'ai une question pour vous. Donc Cédric Lagarde, je rappelle que vous êtes coordinateur d'Imago, et François Bernon, je rappelle aussi que vous êtes coordinateur au CRIT. Et ma question, en fait, c'est voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes qui doivent arriver chez vous, et quels sont vos critères? Est-ce que vous pouvez toutes les prendre, ces demandes? Et si pas, quels sont les critères que vous choisissez pour voir avec quelle personne vous allez travailler ou pas, quoi?
Je commence. Peut-être d'abord pour Imago, comme je vous ai dit, le premier critère c'est l'âge, donc c'est 18-35 ans prioritairement, même si parfois on accueille d'autres personnes. Le deuxième critère c'est effectivement un souhait, on pourrait dire un souhait de la personne de faire quand même un travail sur soi, et donc d'apporter un changement à un fonctionnement. Enfin, le dernier critère, eh bien, c'est que notre dispositif réponde à la demande.
Ok.
Et donc ça, on l'évalue en phase de candidature.
Et quand vous parlez de travail sur soi, c'est quelque chose d'ordre thérapeutique ou
Oui, tout à fait. Oui.
Enfin, moi, quand vous dites ça, ce qui me vient, c'est quel est le rapport entre la vie privée et le travail, en fait. Pour travailler, on met un peu de côté sa vie privée, et donc, je veux dire, le travail thérapeutique est peut-être un peu... Enfin, ça m'interroge, quoi. Voilà, tout simplement. Je me dis...
Mais nous, on n'est pas dans un cadre de travail, on est dans un cadre thérapeutique. Hein.
D'accord.
On est dans un cadre médical. Oui. Donc, effectivement, c'est vraiment... Mais vous évoquiez tout à l'heure qu'effectivement, certaines personnes arrivent là avec ce discours « le travail m'a rendu malade », avec des expériences de vie négatives. Et donc, il y a tout un travail thérapeutique à faire pour justement amener à changer ces représentations.
Le travail thérapeutique, donc, est toujours orienté vers le travail... à venir, quoi. C'est ça, en fait.
Non,
du tout.
Non. D'abord, je vous écoute.
D'abord, le travail n'est pas un but en soi. Mm-hmm. C'est la santé psychique de la personne qui est le but. C'est de pouvoir qu'il puisse, au bout d'un moment, se passer de nous. Et pas se passer de nous en allant à l'hôpital, justement, hein. C'est se passer de nous de façon à ce qu'il puisse lui trouver sa place dans la société d'une façon harmonieuse et dans laquelle il se trouve bien. Le travail en fait partie, mais
est-ce que la confusion ne vient pas justement du nom, de simplement de l'appellation du CRIT, qui est quand même l'intégration par le travail? Donc moi j'ai l'impression que peut-être ça vient de là.
L'intégration par le travail, c'est quelque chose d'un petit peu historique au niveau du CRIT. Mais il est vrai que c'est aussi un fait social. Quand on se définit, on commence par dire, eh ben, je m'appelle François, qu'est-ce que je fais? Je suis coordinateur au CRIT. On commence par là. Donc, il y a quelque chose de la représentation du travail qui est importante. Ouais. Et quand on parle tout à l'heure, j'ai bien aimé la petite recette. Elle m'a fait rappeler un petit peu je travaillais avec des élèves assistants sociaux, éducateurs spécialisés par le passé, et je leur demandais quelle était la différence entre l'intégration et l'insertion, et pourquoi y a-t-il deux mots? Alors bien sûr, les débats allaient étaient des fois houleux et les avis étaient très différents. Et au bout d'un moment, j'utilisais des images telles que dans un livre, si on rajoute une page dans le livre qui dit que aujourd'hui il faisait beau et que ça n'apporte rien de plus à l'histoire, là on a inséré un élément. Si c'est vital de savoir qu'il faisait beau, on a intégré un élément. Mmh. Une autre histoire, c'est au bistrot. Hein. Vous êtes dans un groupe qui buvait l'apéro au bistrot, et puis il y a une personne qui vient, assieds-toi, bois l'apéro avec nous, et on lui paye un verre d'apéritif. Il est intégré, il est inséré au groupe. Il va être intégré à partir du moment où lui, il va payer l'apéro à tout le monde. Hein? Donc, vous voyez un peu les différences. Il y a des notions qui, tout comme après, on passe à l'étage au-dessus, au niveau de l'inclusion, c'est encore un autre niveau. Mais il y a, nous, dans ce travail que l'on fait au quotidien, c'est vraiment autour de la personne. Et les caractéristiques pour être de nos patients, c'est que d'abord, ils sont en souffrance psychique, hein, et en grande souffrance psychique, quand ils font acte de candidature, c'est leur premier problème. Donc, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un suivi, effectivement, avec un psychiatre. Il y a toute une procédure de candidature. Et tout notre travail autour des ateliers dont je parlais tout à l'heure est complètement encadré et sous la responsabilité clinique d'un médecin psychiatre. Ouais. Donc, c'est pas faire activer des patients. Non, c'est rentrer dans des activités qui ont un but thérapeutique.
Donc ça vous arrive de refuser des personnes
réorienter vers d'autres structures qui sont mieux adaptées.
D'accord.
Par exemple, quelqu'un qui a des addictions aux produits divers et variés, on va pas les prendre parce qu'on n'est pas tout à fait outillé, alors qu'on sait très bien qu'on a une autre structure dans la SBL qui s'appelle La Pièce, qui est outillée pour travailler avec des personnes qui ont un double diagnostic, la psychose et puis les addictions.
D'accord.
Donc, et tout comme on peut aussi les orienter vers d'autres structures, par exemple, je sais pas, au Canva, qui est aussi un autre centre de jour et qui travaille encore un petit peu différemment. Nous avons des exigences par rapport à leurs activités de fréquentation. Les patients s'engagent sur la durée dans des activités et tous les 3 mois. Ils revoient leurs activités avec leurs répondants. Donc, son souhait, c'est de pouvoir piocher des activités comme il l'entend tous les jours, on va lui dire non, notre cadre de fonctionnement de thérapeutique n'est pas celui-là. Donc, on va l'envoyer vers des structures qui ont un cadre thérapeutique beaucoup plus souple. Hein? Voilà, c'est comme ça que. Mais on reste pas, on laisse pas un patient en disant non.
Vous l'accompagnez, quoi.
Voilà, on essaye de lui proposer de toute façon quelque chose.
D'accord.
Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le travail, ce n'est pas la seule possibilité pour être heureux finalement, pour être bien ou vivre une vie satisfaisante, mais souvent les personnes ont envie quand même de retravailler. Alors c'est un paradoxe quelque part, quoi. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire qu'il doit avoir moyen de vivre bien sans travailler, et puis d'un autre côté on a quand même envie de travailler parce que c'est une reconnaissance, c'est une valorisation, puis c'est des sous aussi. Donc comment on fait pour gérer tout ça quand on est coordinateur d'un centre de jour, par exemple?
Mais effectivement, comme vous le dites, c'est vrai que ça questionne beaucoup l'identité, en fait, l'identité de chacun. Et dans l'identité, il y a cette facette, effectivement, l'identité professionnelle. Donc là, ben, chacun, évidemment, donne une importance plus ou moins grande à cette facette-là. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, à travers, comme le disait François, le travail de répondance ou de référence, par exemple, il y a la possibilité là de pouvoir travailler cette question-là à un moment donné avec un psychologue aussi, de pouvoir se questionner par rapport à des choix futurs, par rapport à un passé, réanalyser un petit peu le passé, et puis se repositionner. C'est aussi vraiment tout un travail d'affirmation et de détermination qu'on propose aux personnes de faire.
Et j'ai une question, parce qu'en fait la question, souvent les personnes reviennent sur leur ancien, reprennent leur activité qu'elles avaient arrêtée Donc elles reprennent dans la même entreprise ou SBL. Et alors comment on fait au niveau 1 du timing? Et 2, au niveau du retour, comment est-ce qu'il faut expliquer aux collègues le diagnostic? Est-ce que, enfin, ça c'était une des questions aussi qui était lors des journées de l'INAMI. Le timing et aussi est-ce que le diagnostic doit être communiqué aux collègues? Si oui, comment adapter un retour?
Je vais d'abord préciser une chose, c'est que pour nous le diagnostic n'est qu'une hypothèse de travail, donc il n'est pas définitif. Nous on croit à l'évolution de la personne dans son parcours de souffrance psychique, hein. Donc à ce niveau-là, il faut être prudent avec les diagnostics. Mmh. Les diagnostics nous mettent dans des cases, et ça, là, on le refuse, on veut pas le travailler de cette façon-là. Mmh. Ouais. Par contre, bon, effectivement, ça peut donner des pistes de médication pour les médecins, ils en ont besoin. Ouais. Mais à notre niveau, le diagnostic n'est pas prédictif, par exemple, d'une reprise de travail ou pas de reprise de travail.
Mais comment on fait pour le retour au travail, c'est-à-dire comment on communique aux autres collègues, comment expliquer l'absence.
Il n'y a pas une recette passe-partout.
Non.
C'est vraiment quelque chose qui est au cas par cas, et de collègue à collègue, de groupe de travail à groupe de travail. Hein. Vous avez des situations professionnelles, si c'est dans des bureaux, si c'est dans une banque ou si c'est dans le bâtiment, vous n'allez pas aborder le problème de la même façon.
Merci. Ouais.
Voilà, et maintenant tout de suite nous allons nous écouter un petit Calexico avec Miles From The Sea.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out. Don't say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Alors voilà, retour sur Radio Panique 105.4, c'est Silence Radio, et voilà, il y avait une erreur dans l'annonce du morceau précédent, donc c'est bien The Beatles et I Can Work It Out. On va écouter maintenant Hélène avec son acrostiche.
Je rappelle ce que c'est qu'un acrostiche, c'est une forme poétique où chaque lettre d'un mot est le début d'un vers. Et donc j'ai choisi le mot réinsertion. Regarde ton intérieur dans le miroir. Extrais le meilleur de tes reflets. Intégration, réalité difficile dans notre société de productivité. Ne te décourage pas, les rechutes font partie du parcours. Si tu dis souffrance psychique, je dis folie créatrice. Épuisement, car il faut se battre contre la stigmatisation. Réussite, savant mélange de dialogue, de réseau et de courage. Travailler revêt plusieurs réalités, à toi de trouver celle qui te sied. Invalidité ne veut pas dire teubée, ouverture d'esprit de toute la pléiade d'acteurs, nouvelle mentalité pour bousculer les barrières.
Merci.
Merci.
Alors voilà, nouvelle question pour nos deux invités. Y a-t-il une place pour la créativité dans votre travail ?
Le travail, il n'arrête pas d'être créatif. C'est quelque chose qui est continuel. Actuellement, on a parmi les activités que l'on a, on a ce qu'on appelle un atelier insertion. Cet atelier insertion planche un petit peu sur la possibilité de commercialiser, par exemple, les produits qui sont fabriqués dans les ateliers artistiques du CRIT. Fabriqué également avec des artistes extérieurs qui viennent travailler aussi au CRIT, parce qu'il y a tout ce travail de va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur du CRIT. Il y a des artistes qui viennent nous montrer ce qu'ils savent faire, et nous on va chercher plus loin aussi des activités. Donc il y a toute une démarche, toute une recherche de comment on peut, par ces activités-là, permettre aux patients de pouvoir mieux se débrouiller dans la société. Et je dis bien se débrouiller parce que on a aussi des ateliers où c'est de l'entraide, où les compétences des uns est mise au service des autres. Donc il y a tout un développement des relations qui est mis en place à travers tout ça. Donc de la créativité, on la soutient et on la souhaite et on la demande. Également, tout à l'heure, on parlait de faits sociaux, de place sociale. Je trouve que on est encore dans ce débat théorique un petit peu entre Weber et puis Durkheim, où qui c'est qui forme la société ? Est-ce que c'est la société qui transforme les hommes, ou est-ce que c'est les hommes qui font la société ? Je crois qu'on est encore toujours dans cette complexité. On n'a pas réglé le problème de Weber et de Durkheim. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Moi, je crois que on soutient absolument. On va faire du fitness dans la salle de fitness du quartier. On reste pas dans notre structure. Donc tout ce développement vers les autres est très 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 important.
Vous parliez justement des ateliers artistiques et des créations qui sont faites par les personnes qui y participent. Donc par exemple, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a aussi une reconnaissance du travail, une possibilité pour les participants de vendre leurs œuvres ?
C'est une grosse difficulté, parce qu'actuellement, au niveau des textes, parce qu'il faut que ce soit légal, bien entendu, on a tout le travail que font les patients avec les sociothérapeutes, c'est justement de creuser ça, de savoir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. Et ça, ça rassemble énormément de personnes. Parce que en plus, ça nous amène à travailler sur tous nos droits, nos possibilités, nos compétences. Ce sont les patients qui vont chercher les informations. Ouais. Donc, c'est pas le sociothérapeute qui arrive avec une science. Non, c'est tout un travail collectif qui se fait. ça, c'est vraiment de la créativité. On n'est plus dans... certains patients, on les reprend un peu parce qu'il y a des jeunes qui viennent au cours. Ils viennent comme s'ils allaient à l'école suivre un cours. Non, c'est un atelier graphique dans lequel on s'exprime et on exprime quelque chose.
J'aurais une toute dernière question. Qu'est-ce qui, selon vous, serait amélioré pour que les personnes trouvent plus facilement de l'emploi, ou qu'est-ce qui sera même à débloquer, peut-être des choses qui sont bloquées, quoi. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, le travail de trouver un emploi, même pour des personnes qui n'ont pas de problèmes mentaux, c'est compliqué. Et donc, voilà, je pense que pour des personnes qui ont des problèmes mentaux, ça doit l'être vraiment encore plus. Et voilà, qu'est-ce qui, selon vous, est à améliorer, quoi.
On parlait tout à l'heure du statut. Je pense qu'effectivement, ça c'est un aspect vraiment primordial dans la question de la réinsertion professionnelle. C'est l'assurance de maintenir un statut. Ça veut dire quoi maintenir un statut ? Ça veut dire maintenir des finances, maintenir un logement, maintenir une autonomie journalière et maintenir aussi un sentiment de sécurité interne. Donc ça, c'est vraiment effectivement pouvoir rassurer, pouvoir informer tout bénéficiaire d'un parcours de réinsertion professionnelle de la question de son statut. Et aussi, je pense à un autre élément très important qui revient très souvent, c'est pouvoir améliorer la collaboration entre médecins conseils et assurés. Puisque là, effectivement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs autour de cette relation médecin-conseil-assuré, peurs qui font que parfois les gens n'osent même pas évoquer les prémices d'un désir de retourner au travail, de peur d'être exclu de la mutuelle, par exemple. Donc ça, il y a vraiment là quelque chose aussi à travailler, c'est effectivement le relationnel entre médecin-conseil-assuré. Et enfin, je pense à quelque chose aussi du coup j'ai perdu mon idée
Je reprendrai un petit peu alors aussi par rapport nous,
on a encore une minute
à la stigmatisation
voilà. Et un slam
et un slam de Tanguy
ouais
waouh.
Mais je pensais à la stigmatisation de la maladie mentale et qu'au niveau de tous les opérateurs, les employeurs et même les administrations, de transmettre que la maladie mentale, c'est pas vrai que les assassins sont tous des psychotiques ou des schizophrènes.
Voilà, on s'excuse juste pour ce timing voilà, qui s'emballe en fin d'émission, mais on s'est un peu emballé, et c'est le slam de Tanguy.
Qui s'appelle Angoisse. Angoisse de la page blanche, je crache avant que ça flanche. Méfions-nous des apparences, ce soir c'est chaud, l'ambiance est rance. Pendant que certains sont dans l'errance, que d'autres font preuve de tempérance. Tempérament hargneux, j'ai la dalle en permanence, avec le Père Noël qui est devenu l'idole des vacances. J'avance que cette année, beaucoup m'ont canné, donneront autant qu'à la télé. Le monde change, les générations passent, certains se rangent, et oui, l'élévation brasse. Du vide au final, rien d'important pour nous, comme la baisse pour les acteurs de films porno. En fait, j'en sais rien, du coup, plus rien à foutre. Pas de thème, juste un exercice de style. La poutre que t'as dans l'œil si tu crois que je suis hostile. Pas de clash, je suis pisse. J'avance vers mon précipice. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. J'aurai jamais l'âge de l'hospice. Des bandes se fight et des gens meurent. Le Heps tue comme le sida. Dédicace à mes Nivellois 1004, mec, je te dis que ça. Dans ce monde, les potes comptent. Voilà où je porte mes valeurs. Décidément, les miens ont des styles déments. Du coup, j'écris dans le vent, mais je suis décidé grand. Je fais me reposer, me ressourcer avec la MIF. Joyeux Noël au silencieux, je vous souhaite que du kiff.
Merci Tanguy.
Merci Tanguy.